RCF, les grands entretiens d'Éric Rouillet.
Pierre Magnard, bonjour.
Bonjour Éric.
Je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois sur RCF pour une série de deux émissions. Et on va revenir tout de suite sur votre dernier livre, si vous le permettez. « Penser, c'est rendre grâce », que j'ai lu et que j'ai analysé un peu comme une sorte d'agitation, un leurre, où vous expliquez avoir renoncé à écrire tout nouvel ouvrage pour finalement avoir abdiqué de cette sentence. « Penser, c'est rendre grâce ». Est-ce que, finalement, c'est pas une belle feinte ?
Il est évident que je ne peux pas me passer d'écrire. C'est mon repos, c'est ma tranquillité, c'est mon tranquillisant. En dehors de la page de papier blanc, il n'y a pas de sérénité. Et c'est pourquoi, si j'ai voulu rendre grâce, c'est pour, disons, conclure sur un geste d'amitié, faisant valoir que la première vertu de celui qui pense, c'est l'amitié, car c'est dans l'amitié qu'il trouve sa vérité. Je ne peux pas cependant faire de cela un point final, une conclusion. Il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de sortie de l'artiste, il n'y a pas d'adieu aux armes. Il faut toujours y revenir, même si l'on a dû sacrifier quelque peu à cette reconnaissance de ceux qui vous ont accompagné et aidé. Mais ils sont toujours là, et il faut toujours revenir à eux.
Donc c'est un peu un retour sur le champ de bataille qu'annonce une sorte de renaissance, ce livre, qui nous amène vers une nouvelle ère.
Il n'y a pas de fin. Il y a un recommencement. Il y a une nouvelle origine. Il y a un nouveau point de départ. Et quand je dis cela, je mesure tout ce qu'il peut y avoir de caché dans tout geste originaire. Je ne peux pas vous dire ce qui s'en suivra, Dieu seul le sait, mais le commencement se cache dans l'origine. C'est-à-dire que ce qui commence ne dit pas son dernier mot en commençant, puisqu'il se réserve de créer et d'inventer. C'est précisément cela que je constitue comme originaire dans le geste de ce dernier livre.
Pierre Magnard, pour cette série de deux émissions, vous avez absolument tenu à inviter une personne qui vous est très chère. Est-ce que vous pourriez nous la présenter ?
Eh bien, je dirais qu'un élève de la deuxième année d'enseignement, c'est-à-dire lycée Bonville-Moulin, 1957-1958, j'y étais déjà depuis un an. Le retrouver aujourd'hui, c'est vraiment une grâce du ciel, parce que je ne dirai jamais assez que tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, je le dois à mes élèves. Ça s'est passé entre eux et moi. Je fournissais les mots, ils me donnaient le sens. Et ce sens, je n'aurais pas pu l'inventer. Ils me le révélaient, cours après cours, leçon après leçon, de sorte que la teneur de mon enseignement, c'est à eux que je le dois. Or, je ne saurais oublier cette classe du lycée Bonville, où Robert de Villene siégeait, comme un de mes inspirateurs qui m'apportait précisément le sens de la leçon que je devais donner. C'était sa leçon, c'était la sienne, comme elle était celle de quelques autres qui m'écoutaient, de telle sorte qu'il faut rendre son dû à celui qui vous l'a donné, et Aubert de Villene est précisément l'un de ceux qui m'ont tant donné dans ses commencements. Alors, que dire d'autre ? Le retrouver tant d'années après, alors qu'il a passé 80 ans, ça me semble une chose étrange de retrouver mes élèves dans des âges aussi certains, mais le cœur ne change pas. Le cœur conserve sa jeunesse, sa primarité. Il est ce qu'il était au premier jour. C'est-à-dire que celui que j'ai en face de moi, c'est l'Aubert de ses 20 ans. Celui qui a toujours 20 ans à mes yeux, c'est-à-dire qui est toujours en train de commencer, d'inaugurer. Celui qui se met en chemin, comme il le faisait il y a quelques 60 ans. Celui qui se met en chemin. Alors, il devait m'apporter Au-delà précisément de sa présence d'écolier, cette expérience du vigneron, qui pour ma part m'a toujours fasciné. La vigne, c'est ce qui relie l'homme au ciel, ou la terre au ciel, et qui demande à l'homme qu'il prenne de la hauteur. On ne peut pas être vigneron sans prendre de la hauteur, puisque la vigne, c'est ce qui relie la terre au ciel. Ce qui crée précisément cette alliance, c'est la vigne qui le figure le mieux. Et c'est le travail du vigneron qui représente cette façon de se mettre à la hauteur qui doit être celle d'un homme. À hauteur d'homme, c'est précisément tendu vers le ciel en prenant appui sur la terre. Qui le fait mieux que le vigneron ? Il le fait dans son travail quotidien, il le fait dans son appréciation des capacités de son sol, il le fait dans la volonté d'exprimer les latences ou les secrets ou les possibilités de ce sol, il le fait dans la façon de porter au plus haut les expressions qui se cherchent à travers la maturation du raisin et à travers ce fruit de la vigne. Il y a là une sorte de recherche que la plante fait de son ciel. Il y a aussi une façon dont le terroir, en quelque sorte, se manifeste et se révèle dans ce mouvement vers le ciel. Et c'est là que j'aurais envie d'entendre Aubert sur ce qui pour moi est la question devant l'évolution du métier de vigneron aujourd'hui. Car en effet, des contraintes économiques s'imposent et des phénomènes de regroupement ou de concentration se produisent, et pas seulement chez les vignerons. Alors, ma question pourrait être la suivante. Est-ce que dans la façon dont la vigne est exploitée aujourd'hui, la façon dont le vin est produit, la façon dont le vin est commercialisé, cette relation essentielle entre un vin et un terroir est véritablement maintenue, sauvegardée, sans que rien ne l'entache, sans que rien ne la dissimule ? Car en effet, quand j'ouvre une grande bouteille, de quoi s'agit-il ? Il s'agit sans doute d'un plaisir d'un instant, mais bien au-delà, il s'agit d'une rencontre avec des hommes et d'une façon de communier à un terroir. Est-ce que cette relation au terroir n'est pas en quelque sorte obnubilée par le fait que les meilleurs crus seront acquis par de grandes sociétés et qui vont mêler toutes ses origines et toutes ses provenances en oubliant deux choses, en oubliant la terre dans cette vigne et tissu, c'est-à-dire le climat, et le vigneron, c'est-à-dire celui qui a élevé cette vigne.
Aubert de Villaine, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi que Pierre vous pose une telle question, à vous plutôt qu'à moi. Je vais vous laisser y répondre.
Je vais d'abord dire que, retourner un petit peu ce qu'a dit Pierre tout à l'heure, combien ça représente de sens pour moi de l'avoir retrouvé. Parce que nous ne sommes pas revus depuis, je sais pas, 60 ans. Et lui me retrouve, dit-il, un peu comme j'étais à 20 ans. Mais moi, je le retrouve exactement comme lui était quand moi j'avais 20 ans et lui, peut-être 25 ou 27, quelque chose comme ça. Il n'a pas changé. Je retrouve la même voix, la même démarche d'esprit, les mêmes certitudes, même, du moins certitudes, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de certitudes, mais disons les mêmes idées. Et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que j'y vois son enseignement m'a accompagné toute ma vie, cet enseignement socratique de la philosophie. Et c'est quelque chose qui m'a accompagné, vers lequel je suis toujours revenu, aussi bien dans la réflexion que dans les auteurs que lui m'avait fait connaître à l'époque, comme Rilke par exemple, vers lequel je suis toujours revenu quand j'en avais besoin, et la poésie. Et pour moi, c'est un moment, c'est une retrouvaille qui a un sens, qui donne beaucoup de sens à ma vie actuelle. Voilà. Alors, pour répondre à la question, qui n'est pas simple, je pense que, comme on dit, les voies du Seigneur peuvent prendre beaucoup de chemins, et il n'est pas impossible que des acquisitions de vignes qui ont été faites récemment par des grandes sociétés, finalement, que ceux qui représentent ces grandes sociétés épousent la philosophie bourguignonne, peut-être mieux que certains bourguignons, c'est pas impossible, si vous voulez, c'est pas impossible. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui, actuellement, pousseraient la viticulture à changer, la viticulture, je ne peux parler que de la viticulture bourguignonne. Il y a beaucoup d'éléments qui pousseraient à ce qu'elle change. Toute la technologie moderne, toutes le marketing, la financiarisation, etc. De tout ça pousserait cette viticulture à se transformer et passer de cette viticulture familiale axée sur l'expression des crus dont on a la charge, ça pourrait se produire. Mais il se fait qu'actuellement, et je dis ça en le disant, j'espère qu'on ne pense pas que je fais la promotion de la Bourgogne, mais je pense qu'en Bourgogne, à l'heure actuelle, il n'y a peut-être jamais eu autant d'hommes et de femmes qui aient aussi bien compris ce que devait faire la Bourgogne pour se perpétuer. Et ça, au niveau de tout ce qui est fondamental. Moi, je vois, il y a beaucoup de choses fondamentales pour faire une grande région viticole, mais disons qu'on peut parler, il y en a peut-être trois principales. Le respect du terroir, le respect des climats. Ce qu'on appelle climat en Bourgogne, bien sûr, c'est le terroir. L'importance du matériel végétal, sans matériel végétal fin, on peut avoir le meilleur terroir du monde et on fera jamais un grand vin, un très grand vin. Et puis, bien sûr, le vigneron. Et je pense que la mentalité vigneronne à l'heure actuelle en Bourgogne, bien sûr, il y a des exceptions, il y a des différences, mais je pense qu'elle n'a jamais été aussi bien partagée par de nombreux vignerons dans une direction saine et qui correspond à ces fondamentaux de la Bourgogne.
Thank you.
Le clavier bien tempéré, Dominique Merlet, enregistrement réalisé à la Goyotte, à l'Académie Conti, avec le soutien d'Aubert de Vilaine. Pierre Magnère, quand l'homme a vaincu la peur qui souvent l'empêche d'affronter l'angoisse et dépasser l'anxiété qui lui interdit d'assumer lui-même la responsabilité de son destin, il trouve au fond du risque angoissant le goût et le sens de sa véritable vocation. C'est à travers l'angoisse qu'il peut devenir ce qu'il est. Pourquoi cette citation de Pascal ? Parce que, j'ai l'impression que vous nous faites des cachotteries, Maurice Barrès aurait fait une conférence en 1909 au profit de la Ligue des Patriotes intitulée « L'angoisse de Pascal » et vous n'en avez jamais parlé.
L'angoisse de Pascal sera même le titre d'un petit livre, une toute petite publication donnée par Maurice Barrès à cette époque. Or, j'ai découvert ce livre bien après avoir écrit une thèse sur Pascal. Il n'est dans aucune bibliographie, il n'a jamais été réédité depuis 1909 et il n'était pas cité par les chercheurs ou enseignants que j'ai pu consulter sur Pascal. Autrement dit, on a fait silence sur cette œuvre. Et je n'en ai eu la révélation qu'au soir de la vie de mon maître de thèse, qui s'appelait Henri Gouillet et qui était professeur à la Sorbonne, maître de thèse très particulier, si je puis dire, puisque c'est lui qui avait pris l'initiative d'inscrire mon sujet sur les registres de notre vieille faculté et de me contraindre ainsi, en me mettant l'épée dans les reins, à faire cette thèse. Or, il va vivre jusqu'à 96 ans et c'est sur le coup de ses 95 ans que, dans son petit salon parisien, d'une manière très privée, il me raconte qu'on ne peut pas accéder à un grand philosophe sans un intercesseur, c'est le mot qu'il utilise. Et il me renvoie à un texte de Maurice Barrès sur nos intercesseurs dans la vie de l'esprit. Et il me dit que son intercesseur pour aller à Pascal, ce fut justement Maurice Barrès. Chose tout à fait imprévue, inattendue, que cette révélation qu'il me faisait. Donc, j'en parle très tard de Maurice Barrès. Je n'en parle que depuis que j'ai pu enfin me procurer l'angoisse de Pascal. Et là, qu'est-ce que je découvre ? Je découvre un homme plus panthéiste que chrétien, mais doué d'un sens spirituel très poussé. Et ayant interrogé Henri Gouillet, mais qu'est-ce qu'il vous a apporté là-dessus ? Eh bien, Maurice Barrès, c'est celui qui permet de passer de l'intellectuel au spirituel. Et même s'il est panthéiste, même s'il n'est pas un catholique de tradition, il m'a été très nécessaire pour comprendre Pascal. C'est donc une sorte de découverte que j'ai fait récemment en analysant le petit livre de Barrès. Or, qu'est-ce qu'il contient, ce livre ? Il est au fond une réponse à une question. Pourquoi Pascal ? Pourquoi nous intéressons-nous toujours à Pascal ? Et comment Pascal est-il venu à cette réflexion ? Je crois que ce qui est le plus frappant, c'est quand Maurice Barrès, s'interrogeant sur les raisons qu'avait Pascal de se livrer à cette ascèse, à cette méditation, à cette confrontation constante avec les évangiles et à cette recherche sur une apologie de la religion chrétienne, c'était quoi exactement ? Il parle de misère, il parle de malheur, mais on ne peut expliquer ça par aucune crise intellectuelle véritable. Il n'a pas connu de remise en cause de sa foi. On ne peut l'expliquer par aucun drame intérieur. On ne sait pas de grande peine d'amour. Alors, de quoi s'agit-il ? De la maladie ? Il la surmonte très bien dans sa prière pour vivre en chrétien les maladies. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, Maurice Barrès nous dit, qu'est-ce qui pouvait l'éprouver ? Qu'est-ce qui pouvait l'atteindre ? Ce qui pouvait l'atteindre, c'était bien évidemment les difficultés que pouvait rencontrer l'intelligence humaine en mathématiques. La difficulté à résoudre un problème de géométrie, tout simplement. Car Pascal ne concevait pas plus grande humiliation que de ne pas pouvoir résoudre un problème. Les savants à l'époque échangeaient les questions débattues. Autrement dit, échangeaient les problèmes. Ils se les passaient à travers toute l'Europe. Et c'était à qui pourrait le résoudre. Il était donc, dès son plus jeune âge, en correspondance avec les plus grands mathématiciens et physiciens du temps, et il leur soumettait des questions comme il prenait les leurs. Et l'on ne sait pas que Pascal ait connu dans ce domaine un échec. il surmonta toujours la difficulté et il fut toujours le vainqueur du tournoi. Donc, qu'en est-il? Et quelle question non résolue pouvait, au fond, poser problème à ses yeux au point de le faire souffrir et de le mettre dans l'angoisse? Car on n'est pas angoissé pour rien. Et c'est précisément cela qui a fait découvrir à Maurice Barrès que l'angoisse de Pascal tenait essentiellement à une question, une seule question, le sens de l'existence.
Aubert de Villaine, avez-vous connu cette noblesse de l'angoisse dont parle Pierre Magnard et comment l'avez-vous surmontée? En fait, je parlais de ça avec un autre vigneron de Bonne-Romanée, Jean-Yves Bizot, qui en ce moment lit les mémoires de Michel Sardou. Ça lui a fait beaucoup de bien. Vous, comment, par rapport à ce que dit Pierre, vous avez traversé ce parcours? Avez-vous connu un peu ce style de questions? C'est pas des peurs, c'est l'angoisse. L'angoisse est endogène. Est-ce que vous avez une relation à ce genre d'incertitude?
Une relation à l'angoisse?
Oui.
Je pense que si on essaye d'avancer, d'aller plus loin, de trouver ce qui va vous permettre de progresser, on rencontre l'angoisse forcément. Cette angoisse, pour moi, a toujours été, j'ai toujours ressenti comme quelque chose de nourrissant, si je puis dire, de moteur. Bon, je parle pas de l'angoisse qu'on peut avoir dans certains cas, de sentiments personnels, tout ça, mais au niveau du métier, de ce que je fais, cette angoisse a toujours été quelque chose de moteur et je l'accueille comme quelque chose de positif.
Oui, en fait, vous ne la subissez pas, vous vivez avec.
On vit avec, voilà. Oui, tout à fait. Oui,
d'ailleurs... C'est exactement la façon dont Pascal le vit, justement. Car il va épingler une catégorie qui aura une grande importance dans toute son œuvre, c'est miseria, la misère. C'est une notion qui entre dans le langage religieux au XIVe siècle et qui est connotée immédiatement à celle de grandeur. Or, si l'angoisse est motrice, comme vous dites très justement, c'est parce que la misère nous parle de grandeur. La misère, c'est une grandeur en creux, c'est une grandeur en défaut, c'est une grandeur qui voudrait prévaloir et qui n'arrive pas à le faire. Autrement dit, la misère, ce n'est pas désespérant, puisque ça ouvre sur une perspective céleste. La misère, elle exige de nous que nous prenions de la hauteur. Et prenons de la hauteur, nous faisons la preuve de notre grandeur. Prendre de la hauteur pour se découvrir un horizon d'existence, et c'est cela que Pascal étudie dans ce binôme misère-grandeur, où les deux termes sont inséparables l'un de l'autre. Et là, je voudrais faire une remarque. Il y a, disons, une sorte d'optimisme de Pascal. Car quelque misère que nous connaissions, c'est l'envers d'une grandeur. Autrement dit, parce que nous avons découvert cela, nous ne pouvons plus vivre sans honneur. L'honneur, qu'est-ce que c'est? C'est précisément ce remède que nous apportons au sentiment de notre misère. Nous ne sommes pas assez grands pour nous passer de l'honneur, disait Pascal. Nous ne sommes pas assez grands. Si nous étions assez grands, nous pourrions nous en passer. Mais comme nous ne sommes pas assez grands, alors nous vivons dans l'honneur. Et nous développons une éthique de l'honneur.
Je ne peux pas m'empêcher de penser, quand vous dites ça, à la naissance de notre viticulture. Non pas de la viticulture, mais de notre viticulture bourguignonne, avec les moines. Bon, pour simplifier, c'est un peu simplificateur de parler des moines. Comme initiateur de notre viticulture, mais c'est quand même vrai, parce que c'était à cette époque-là qu'elle s'est vraiment créée et développée. Et cette misère et grandeur, je pense qu'elle est tout à fait très bonne description, en fait, de cette naissance de notre viticulture que nous devons continuer à perpétuer avec, dans cet esprit de misère et grandeur, pour nous faire monter plus haut. Pardonnez-moi de cette interruption, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ça.
Pierre Magnard, on arrive au terme de notre première émission. Aubert, je vous remercie d'être venu. Nous nous retrouverons le mois prochain et nous allons nous quitter avec Dominique Merlet, le clavier bien tempéré et la guayotte.